qu'est-ce que c'est que ces interrogatoires ? Dit alors Léontine avec douceur à Camusot, resté tout penaud devant la femme d'un des plus grands personnages de l'État. « Madame, répondit Camusot, un greffier met par écrit les demandes du juge et les réponses des prévenus. Le procès-verbal est signé par le greffier, par le juge et par les prévenus. Ces procès-verbaux sont les éléments de la procédure. Ils déterminent l'accusation et le renvoi des accusés devant la cour d'assises. « Eh bien, reprit-elle, si l'on supprimait ces interrogatoires ? Ah, madame, ce serait un crime pour le magistrat. C'est un crime bien plus grand de les avoir écrits. Mais en ce moment, c'est la seule preuve contre Lucien. Voyons, lisez-moi son interrogatoire afin de savoir s'il nous reste quelque moyen de nous sauver tous. Il ne s'agit pas seulement de moi qui me donnerait froidement la mort, il s'agit aussi du bonheur de monsieur de Sérisy. » « Madame, dit Camusot, ne croyez pas que j'ai oublié les égards que je vous devais. Et si monsieur Popinot, par exemple, avait été commis à cette instruction, vous eussiez été plus malheureuse que vous ne l'êtes avec moi. Tenez, madame, on a tout saisi chez monsieur Lucien, même vos lettres. »« Oh, mes lettres ! Les voici cachetées, dit le magistrat. » La comtesse, dans son trouble, sonna comme si elle eût été chez elle. Et le garçon de bureau du procureur général entra. « De la lumière, » dit-elle. Le garçon alluma une bougie et la mit sur la cheminée, pendant que la comtesse reconnaissait ses lettres, les comptait, les chiffonnait et les jetait dans le foyer. Bientôt la comtesse mit le feu, en se servant de la dernière lettre tortillée comme d'une torche. Camusot regardait flamber les papiers assez niaisement, en tenant à la main ses deux procès-verbaux. La comtesse, qui paraissait uniquement occupée d'anéantir les preuves de sa tendresse, observait le juge du coin de l'œil. Elle prit son temps, elle calcula ses mouvements, et avec une agilité de chatte, elle saisit les deux interrogatoires et les lança dans le feu. Mais Camusot les y reprit, la comtesse s'élança sur le juge et ressaisit les papiers enflammés. Il s'ensuivit une lutte, pendant laquelle Camusot criait « Madame, madame, vous attendez, ah, madame !» Un homme s'élança dans le cabinet, et la comtesse ne put retenir un cri en reconnaissant le comte de Cerisy, suivi de messieurs de Granville et de Beauvan. Néanmoins, Léontine, qui voulait sauver à tout prix Lucien, ne lâchait point les terribles papiers timbrés, qu'elle tenait avec une force de tenaille, quoique la flamme eût déjà produit sur sa peau délicate l'effet des moxas. Enfin Camusot, dont les doigts étaient également atteints par le feu, parut avoir honte de cette situation. Il abandonna les papiers. Il n'en restait plus que la portion serrée par les mains des deux lutteurs, et que le feu n'avait pu mordre. Cette scène s'était passée en un laps de temps moins considérable que le moment d'en lire le récit. « De quoi pouvait-il s'agir entre vous et madame de Sérisy ? » demanda le ministre d'État à Camusot. Avant que le juge ne répondît, la comtesse alla présenter les papiers à la bougie et les jeta sur les fragments de ses lettres que le feu n'avait pas entièrement consumés. « J'aurais, dit Camusot, apporté plainte contre madame la comtesse. »« Et qu'a-t-elle fait ? » demanda le procureur général en regardant alternativement la comtesse et le juge. « J'ai brûlé les interrogatoires, » répondit en riant, la femme à la mode, si heureuse de son coup de tête qu'elle ne sentait pas encore ses brûlures. « Si c'est un crime, eh bien, monsieur peut recommencer ses affreux gribouillages. »« C'est vrai, » répondit Camusot en essayant de retrouver sa dignité. « Eh bien, tout est pour le mieux, » dit le procureur général. « Mais, chère comtesse, il ne faudrait pas prendre souvent de pareilles libertés avec la magistrature. Elle pourrait ne pas voir qui vous êtes. » Monsieur Camusot résistait bravement à une femme à qui rien ne résiste. L'honneur de la robe est sauvé, dit en riant le comte de Beauvan. Ah, monsieur Camusot résistait, dit en riant le procureur général. Il est très fort. En ce moment, ce grave attentat devint une plaisanterie de jolie femme et dont riait Camusot lui-même. Le procureur général aperçut alors un homme qui ne riait pas. Justement effrayé par l'attitude et la physionomie du comte de Sérisy, M. de Granville le prit à part. « Mon ami, lui dit-il à l'oreille, ta douleur me décide à transiger pour la première et seule fois de ma vie avec mon devoir. » Le magistrat sonna, son garçon de bureau vint. « Allez au bureau de la Gazette des tribunaux, dire à maître Massol de venir s'il s'y trouve. » « Mon cher maître, reprit le procureur général en attirant Camusot dans l'embrasure de la croisée, allez dans votre cabinet, refaites avec un greffier l'interrogatoire de l'abbé Carlos Herrera, qui, n'étant pas signé de lui, peut se recommencer sans inconvénient. Vous confronterez demain ce diplomate espagnol avec messieurs de Rastignac et Bianchon, qui ne reconnaîtront pas en lui notre Jacques Collin. Sûr de sa mise en liberté, l'abbé signera les interrogatoires. Mettez dès ce soir en liberté Lucien de Rubempré. Certes, ce n'est pas lui qui parlera de l'interrogatoire dont le procès-verbal est supprimé. La Gazette des tribunaux annoncera demain la mise en liberté immédiate de ce jeune homme. Maintenant, voyons si la justice souffre de ces mesures. Si l'Espagnol est le forçat, nous avons 1000 moyens de le reprendre, de lui faire son procès, car nous allons éclaircir diplomatiquement sa conduite en Espagne. Corentin est là. Pouvons-nous tuer le comte, la comtesse de Sérisy, Lucien, pour un vol de 750 000 francs, encore hypothétique et commis d'ailleurs au préjudice de Lucien? Ne vaut-il pas mieux lui laisser perdre cette somme que le perdre de réputation? Surtout quand il entraîne dans sa chute un ministre d'État, sa femme et la duchesse de Maufrigneuse. Ce jeune homme est une orange tachée. Ne la pourrissez pas. Ceci est l'affaire d'une demi-heure. Allez, nous vous attendons. Il est 4h30, vous trouverez encore des juges. Avertissez-moi si vous pouvez avoir une ordonnance de non-lieu en règle. Ou bien Lucien attendra jusqu'à demain matin. Camusot sortit après avoir salué, mais Madame de Sérisy, qui sentait alors vivement les atteintes du feu, ne lui rendit pas son salut. Monsieur de Sérisy, qui s'était élancé subitement hors du cabinet pendant que le procureur général parlait au juge, revint alors avec un petit pot de cire vierge et pansa les mains de sa femme en lui disant à l'oreille « Léontine, pourquoi venir ici sans me prévenir ?»« Pauvre amie, lui répondit-elle à l'oreille. « Pardonnez-moi, je parais folle, mais il s'agissait de vous autant que de moi. Aimez ce jeune homme si la fatalité le veut, mais ne laissez pas tant voir votre passion, » répondit le pauvre mari. « Allons, chère comtesse, » dit M. de Granville, après avoir causé pendant quelque temps avec le comte Octave. « J'espère que vous emmènerez M. de Rubempré dîner chez vous ce soir. » Cette quasi-promesse produisit une telle réaction sur Madame de Sérisy qu'elle pleura. « Je croyais ne plus avoir de larmes, » dit-elle en souriant. « Ne pourriez-vous pas, » reprit-elle, « faire attendre ici Monsieur de Rubempré ? Je vais tâcher de trouver des huissiers pour nous l'amener, afin d'éviter qu'il soit accompagné de gendarmes, » répondit Monsieur de Granville. « Vous êtes bon comme Dieu, » répondit-elle au procureur général, avec une effusion qui rendit sa voix une musique divine. « C'est toujours ces femmes-là, » se dit le comte Octave, « qui sont délicieuses, irrésistibles. » Et il eut un accès de mélancolie en pensant à sa femme. Entre parenthèses, voir Honorine, scène de la vie privée. Pendant que jolies femmes, ministres, magistrats, conspiraient tous pour sauver Lucien, voici ce qui se passait à la conciergerie. En passant par le guichet, Lucien avait dit au greffe que M. Camusot lui permettait d'écrire. Il demanda des plumes, de l'encre et du papier, qu'un surveillant eut aussitôt l'ordre de lui porter, sur un mot, dit à l'oreille du directeur, par l'huissier de Camusot. Pendant le peu de temps que le surveillant mit à chercher et à monter chez Lucien ce qu'il attendait, ce pauvre jeune homme, à qui l'idée de sa confrontation avec Jacques Collin était insupportable, tomba dans une de ces méditations fatales où l'idée du suicide, à laquelle il avait déjà cédé sans avoir pu l'accomplir, arrive à la manie. Selon quelques grands médecins aliénistes, le suicide, chez certaines organisations, est la terminaison d'une aliénation mentale. Or, depuis son arrestation, Lucien en avait fait une idée fixe. la lettre d'Esther, relue plusieurs fois, augmenta l'intensité de son désir de mourir, en lui remettant en mémoire le dénouement de Roméo rejoignant Juliette. Voici ce qu'il écrivit. « Ceci est mon testament. À la conciergerie, ce 15 mai 1830. Je sous-signais, donne et lègue aux enfants de ma sœur, Madame Ève Chardon, femme de David Séchard, ancien imprimeur à Angoulême, et de Monsieur David Séchard, la totalité des biens, meubles et immeubles, qui m'appartiendront au jour de mon décès, déduction faite des paiements et des legs, que je prie mon exécuteur testamentaire d'accomplir. Je supplie Monsieur de Sérisy d'accepter la charge d'être mon exécuteur testamentaire. Il sera payé, premièrement, à M. l'abbé Carlos Herrera, la somme de 300 000 francs. Deuxièmement, à M. le baron de Nucingen, celle de 1400 000 francs, qui sera réduite de 750 000 francs si les sommes soustraites chez Mademoiselle Esther se retrouvent. Je donne et lègue, comme héritier de Mademoiselle Esther Gobseck, une somme de 760 000 francs aux hospices de Paris, pour fonder un asile spécialement consacré aux filles publiques qui voudront quitter leur carrière de vice et de perdition. En outre, je lègue aux hospices la somme nécessaire à l'achat d'une inscription de rente de 30 000 francs en 5%. Les intérêts annuels seront employés, pour chaque semestre, à la délivrance des prisonniers pour dette, dont les créances s'élèveront au maximum à 2 000 francs. Les administrateurs des hospices choisiront parmi les plus honorables des détenus pour dette. Je prie M. de Sérisy de consacrer une somme de 40 000 francs à un monument à élever au cimetière de l'Est à Mademoiselle Esther, et je demande à être inhumée auprès d'elle. Cette tombe devra être faite comme les anciens tombeaux. Elle sera carrée. Nos deux statues en marbre blanc seront couchées sur le couvercle, les têtes appuyées sur des coussins, les mains jointes et levées vers le ciel. Cette tombe n'aura pas d'inscription. Je prie M. le comte de Sérisy de remettre à M. Eugène de Rastignac la toilette en or qui se trouve chez moi, comme souvenir. Enfin, à ce titre, je prie mon exécuteur testamentaire d'agréer le don que je lui fais de ma bibliothèque. Lucien Chardon de Rubempré. Ce testament fut enveloppé dans une lettre adressée à M. le comte de Granville, procureur général de la Cour royale de Paris, et ainsi conçu. Monsieur le comte, je vous confie mon testament. Quand vous aurez déplié cette lettre, je ne serai plus. Dans le désir de recouvrer ma liberté, j'ai répondu si lâchement à des interrogations captieuses de M. Camusot que, malgré mon innocence, je puis être mêlé dans un procès infâme. En me supposant acquitté, sans blâme, la vie serait encore impossible pour moi, d'après les susceptibilités du monde. Remettez, je vous prie, la lettre ci incluse à l'abbé Carlos Herrera sans l'ouvrir, et faites parvenir à M. Camusot la rétractation en forme que je joins sous ce pli. Je ne pense pas qu'on ose attenter au cachet d'un paquet qui vous est destiné. Dans cette confiance, je vous dis adieu, vous offrant pour la dernière fois mes respects, et vous priant de croire qu'en vous écrivant, je vous donne une marque de ma reconnaissance pour toutes les bontés que vous avez eues pour votre serviteur. Lucien de R. À l'abbé Carlos Herrera. Mon cher abbé, je n'ai reçu que des bienfaits de vous et je vous ai trahi. Cette ingratitude involontaire me tue, et quand vous lirez ces lignes, je n'existerai plus. Vous ne serez plus là pour me sauver. Vous m'aviez donné pleinement le droit, si j'y trouvais un avantage, de vous perdre en vous jetant à terre comme un bout de cigare. Mais j'ai disposé de vous sottement. Pour sortir d'embarras, séduit par une captieuse demande du juge d'instruction, votre fils spirituel, celui que vous aviez adopté, s'est rangé du côté de ceux qui veulent vous assassiner à tout prix, en voulant faire croire à une identité que je sais impossible entre vous et un scélérat français. Tout est dit. Entre un homme de votre puissance et moi, de qui vous avez voulu faire un personnage plus grand que je ne pouvais l'être, il ne saurait y avoir de niaiseries échangées au moment d'une séparation suprême. Vous avez voulu me faire puissant et glorieux. Vous m'avez précipité dans les abîmes du suicide. Voilà tout. Il y a longtemps que je voyais venir le vertige pour moi. Il y a de la postérité de Caïn et celle d'Abel, comme vous disiez quelquefois. Caïn, dans le grand drame de l'humanité, c'est l'opposition. Vous descendez d'Adam par cette ligne en qui le diable a continué de souffler le feu dont la première étincelle avait été jetée sur Ève. Parmi les démons de cette filiation, il s'en trouve, de temps en temps, de terribles, à organisation vaste, qui résument toutes les forces humaines, et qui ressemblent à ces fiévreux animaux du désert, dont la vie exige les espaces immenses qu'ils y trouvent. Ces gens-là sont dangereux dans la société comme les lions le seraient en pleine Normandie. Il leur faut une pâture. Ils dévorent les hommes vulgaires et broutent les écus des niais. Leurs jeux sont si périlleux qu'ils finissent par tuer l'humble chien dont ils se sont fait un compagnon, une idole. Quand Dieu le veut, ces êtres mystérieux sont Moïse, Attila, Charlemagne, Robespierre ou Napoléon. Mais quand ils laissent rouiller au fond de l'océan d'une génération ces instruments gigantesques, ils ne sont plus que Pougatchev, Fouché, Louvel et l'abbé Carlos Herrera. Doués d'un immense pouvoir sur les âmes tendres, ils les attirent et les broient. C'est grand, c'est beau dans son genre. C'est la plante vénéneuse aux riches couleurs qui fascine les enfants dans les bois. C'est la poésie du mal. Des hommes comme vous autres doivent habiter des antres et n'en pas sortir. Tu m'as fait vivre de cette vie gigantesque, et j'ai bien mon compte de l'existence. Ainsi je puis retirer ma tête des nœuds gordiens de ta politique, pour la donner aux nœuds coulants de ma cravate. Pour réparer ma faute, je transmets au procureur général une rétractation de mon interrogatoire. Vous verrez à tirer parti de cette pièce. Par le vœu d'un testament en bonne forme, on vous rendra, monsieur l'abbé, les sommes appartenant à votre ordre, desquelles vous avez disposé très imprudemment pour moi, par suite de la paternelle tendresse que vous m'avez portée. Adieu donc, adieu, grandiose statue du mal et de la corruption, adieu, vous qui, dans la bonne voie, eussiez été plus que Jiménez, plus que Richelieu, vous avez tenu vos promesses. Je me retrouve au bord de la Charente, après vous avoir dû les enchantements d'un rêve. Mais malheureusement ce n'est plus la rivière de mon pays où j'allais noyer les peccadilles de la jeunesse. C'est la Seine et mon trou. C'est un cabanon de la conciergerie. Ne me regrettez pas, mon mépris pour vous est égal à mon admiration. Lucien. Déclaration. Je soussigne et déclare rétracter entièrement ce que contient l'interrogatoire que m'a fait subir aujourd'hui M. Camusot. L'abbé Carlos Herrera se disait ordinairement mon père spirituel, et j'ai dû me tromper à ce mot, pris dans un autre sens par le juge, sans doute par erreur. Je sais que, dans un but politique, et pour anéantir des secrets qui concernent les cabinets d'Espagne et des Tuileries, des agents obscurs de la diplomatie essayent de faire passer l'abbé Carlos Herrera pour un forçat nommé Jacques Collin. Mais l'abbé Carlos Herrera ne m'a jamais fait d'autre confidence à cet égard que celle de ses efforts pour se procurer les preuves du décès ou de l'existence de ce Jacques Collin. À la conciergerie, ce 15 mai 1830, Lucien de Rubempré.